Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui vous fait gagner des trucs. Parce que dans cette émission, on va vous faire gagner des trucs. Je suis OneAPier, je suis accompagné du barbu le plus frisé du podcast BD. Bienvenue Thio.
Hello.
Pour une nouvelle émission, normale. Donc la semaine dernière, vous avez eu droit à notre petite émission mini, faite à l'arrache. Vous avez pu même constater que notre montage était fait très rapidement. On a un peu manqué de temps.
Ton montage était fait à l'arrache.
Oui, merci. Rappelle à notre public que c'est moi qui fais tout.
Et... C'est ton nom qui est sur le truc. Hein.
Et je sais, je dois l'assumer. Et donc, on va commencer par une émission où on va parler de beaucoup de choses. Nous allons parler de Batman Universe, d'un Ultimate Spider-Man, de Jérôme Bloch,
de Body World,
du dernier Remington, d'Akiba Manga,
de Planetary.
Ouais. Bref, un gros sujet. Mais on va commencer un petit peu avec quelques news avant d'attaquer et de parler du concours qu'on organise avec Isneo. Donc, première news, il faut savoir que suite à tous les événements tragiques qui se passent actuellement au Japon, il y a Jean-David Morvan qui se trouvait à Tokyo au moment du séisme, avec d'autres auteurs qui ont essayé de monter un site avec la communauté Café Salé. Alors le site c'est tsunami.cfsl.net, on mettra l'adresse sur le site, pour que tous les illustrateurs qui le souhaitent puissent collaborer en proposant des illustrations dont les originaux seront mis en vente au profit de l'aide aux Japonais, et aussi dont l'objectif va être d'essayer d'éditer un livre dont tous les bénéfices seront remis à l'aide aux Japonais. Il y a des bijoux.
Des couvertures vraiment magnifiques. Ouais.
C'est assez émouvant de voir ces images-là. Ça montre à quel point la culture japonaise a réussi à venir jusqu'à nous, et ça montre à quel point c'est important d'essayer de faire quelque chose pour les Japonais. Alors si en plus ça vous permet d'avoir un superbe dessin, moi je pense que le recueil Café Salé, s'il sort en recueil, je vais craquer dessus parce qu'il est magnifique. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est tsunami.cfsl.net. Si vous êtes illustrateur, allez-y aussi, participez. Il suffit de leur écrire, il y a tout sur leur site. Un peu plus léger. J'en parle parce que je viens de l'acheter, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Il y a un Spirou spécial cirque qui vient de sortir.
Tu parles de trucs, tu les as même pas. Ouais. C'est bien.
J'ai de quoi ?
Hein, tu parles de trucs, tu les as même pas lu en fait.
Non, j'ai pas eu le temps, c'est pour ça que j'en parle très vite fait. C'est un spécial cirque qui a été réalisé avec Barbara Canepa. Je sais jamais si c'est Canepa ou Canapa. Canepa.
Canada, si tu veux aussi.
Voilà. Avec Barbara Canepa. Qui est donc rédactrice en chef du journal, qui a fait intervenir plein de gens qu'elle aime. C'est superbe, il y a des illustrations magnifiques. C'est sur le thème du cirque, une superbe couverture qu'elle a réalisée en collaboration avec Benjamin Lacombe. Je trouve ça super génial parce que on a beaucoup d'auteurs en fait qui ne sont pas des auteurs du puits du tout. C'est-à-dire qu'en gros, du fait que Barbara Canepa est quand même éditrice chez Soleil, on a beaucoup de gens de chez Soleil qui ont participé au magazine. Et je trouve que cette ouverture aux autres éditeurs du magazine est assez géniale et que c'est très très bon esprit au niveau de la BD. Bref, j'adore. Et en plus, il y a même un petit strip de Strondheim, il y a du Dob, il y a du Libon toujours, Bianco. C'est que des stars. Moi, j'adore. Libon, qu'est-ce qu'il est bon, Libon. Voilà, donc le Spirou spécial cirque, il coûte 2,30€ et il est super sympa. Et maintenant, on va pouvoir parler de notre concours. Donc avec Isneo, nous organisons un concours qui va vous permettre de gagner des ex-libris et des tonnes d'ex-libris.
Mais vraiment. Déjà, qui est Isneo ?
Alors Isneo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui permet d'acheter ou de louer des bandes dessinées au format numérique. Donc on retrouve...
C'est le mal
Moi, je trouve ça très très bien. Comme
j'ai
principe.
Pas encore changé d'avis, écoute.
Oui, mais voilà.
Ça viendra peut-être, hein, mais pour l'instant, j'ai pas encore changé d'avis.
Quand t'auras ton iPad 5.
Oui. Et le jour où j'ai 800€, je les balance pas
là-dedans.
Non, mais
l'iPad 5, ils le donneront.
Ouais. Voilà, je peux faire payer un petit billet d'avion pour aller aux States, tu vois, ça sera peut-être plus intéressant.
Bon, bref, Isneo propose d'acheter les bandes dessinées ou de les louer, ce qui permet de tester des trucs, de lire des choses qu'on n'aurait pas forcément envie d'avoir dans sa bibliothèque, de gagner de la place chez soi et de ne pas tuer des arbres. Et les arbres, c'est important. Voilà. Donc il y a une offre très très complète. Il y a actuellement un petit peu moins de 2000 albums proposés, mais ça augmente assez vite.
Beaucoup d'éditeurs qui sont déjà...
Beaucoup d'éditeurs, surtout que la plupart des gros éditeurs de BD franco-belges sont associés il y a peu dans un groupe qui s'appelle Bande Numérique pour diffuser leurs bandes dessinées sur la plateforme Isneo. Alors la plupart de ces éditeurs étaient déjà présents. On s'attendait à en voir arriver d'autres. Il y avait des accords qui étaient en train de se mettre en place, mais on retrouve... Donc, les éditeurs et leurs filiales, je vais en citer quelques-uns, mais je vais sûrement en oublier. Donc, on a Bambou, Glénat, Soleil, Delcourt, Dupuis, Casterman. Bref, un gros paquet. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises en les citant.
Mais il en manque toujours.
Il en manque toujours, puisqu'il y en a vraiment un paquet. Et donc, on commence à voir plein de choses sympas. Et d'ailleurs, là, vient d'arriver The Walking Dead, qui est une série sympa, dont on avait déjà parlé. Ça vient d'arriver chez Isneo. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Donc, des ex-libris. On a des gros paquets d'ex-libris.
On en a tellement qu'il n'y a plus de place. En fait.
On est envahis. Et des ex-libris de trucs dont vous avez déjà parlé et qu'on adore. Ou bien de trucs dont vous n'avez pas parlé et qu'on adore. Ou bien de trucs qu'on ne connaît pas aussi. Mais qui sont beaux, parce qu'on les a vus et ils sont jolis. Donc, il y a Le Banni, il y a Pin-Up, 13, Croisade, il y a des trucs de Kraen, du Niklaus Koda, les fantastiques aventures de Jules. Il y a du Scorpion, il y a Où le regard ne porte pas, qui est une planche qui est très très jolie. Et donc on va vous proposer à 14 d'entre vous de repartir avec des ex-libris. Alors il y a des packs, en gros, meilleur vous serez, plus vous aurez d'ex-libris. On est comme ça. Et comment gagner ?
Alors, il faut envoyer vos dons donc au 6-12-12, vous tapez « Je gagne » et ça coûte seulement 57€ la minute.
Voilà, mais en fait non, pour gagner, il suffit de répondre à une question. Vous avez vu notre site peut-être, si vous n'êtes pas passé que par iTunes pour nous connaître.
Sinon,
on a un joli bandeau avec plein de personnages de BD qui sont représentés. Et il suffit de nous dire qui sont ces personnages de BD. Alors il y a un petit, sur la page du concours, il y aura une petite image avec tout numéroté pour les retrouver, savoir qui ils sont. Et puis ceux qui nous donneront le plus de bonnes réponses seront les gagnants. Et si vous êtes vraiment tous super forts et que vous nous trouvez tous les personnages, alors en plus on va donner des indices. Il y a quelques indices déjà sur Facebook. Il y en a
qui sont durs quand même sinon.
Ouais, il y en a qui sont durs. Là on peut déjà vous dire qu'il y a quand même dans cette émission là, on va parler de 4 des personnages qui sont dessus. Hein. C'est pas mal, hein. Voilà. Donc si vous êtes vraiment trop fort, on vous propose une petite question qui est « Qu'est-ce qu'il y a dans cette marmite sur le bandeau qui hypnotise autant les personnages de BD ?» Et là, en gros, c'est à vous d'être imaginatif et je pense qu'on fera gagner les plus drôles. Ça sera la question de pour vous départager. Vous nous envoyez les réponses à l'adresse concours@lavoisdesbulles.net. Voilà, et vous avez jusqu'au 15 avril à minuit, caché de serveur SMTP faisant foi. Ouais, ça fait classe.
Ça fait classe quand même, ouais. Et donc l'huissier, au fait, qui
les réussira. On verra pour choisir. Oui, la drôleté des trucs, ça va être dur. On demandera à des gens, à l'humour certain, de nous aider à choisir. Car comme vous le savez, notre humour n'est pas certain. Nous attaquons donc avec le presque neuf.
Et on commence par ?
On commence par Batman Universe. On s'est vachement mis d'accord en fait.
Et ouais, parce qu'on n'a pas fait la feuille, du coup, on ne sait pas par quoi on commence.
Voilà, mais non, c'est Batman Universe. On va commencer par, comme d'habitude, tout ce qui est un peu kiosque. Et c'est le Batman Universe numéro 5 qui existe en deux couvertures. Une chair très jolie qui les avait été sortie pour Angoulême il y a quelques temps. Et une.
Pas chère.
À 5,60€. Batman Universe.
Enfin, moins cher alors.
Moins cher. Il y a eu du neuf. Hein. Maintenant, il y a 5 histoires dans le recueil. Pour 5,60€, c'est pas mal, sachant qu'en 100%, là, ils te les font, les 5 histoires, à 11€. Donc, c'est plutôt intéressant d'un point de vue tarifaire. Et nous avons donc les séries Batman et Robin et les séries Batman qui sont représentées. Batman et Robin avec Grant Morrison au scénario et Philip Tan au dessin. Que peut-on dire de cette histoire qui se poursuit, la revanche de Red Hood?
Ça devient bourrin.
Ça devient bourrin. Explique-toi.
Je peux pas non plus trop vendre le truc. Hein.
Ouais, ça t'a
non,
pas.
Non, celui-là m'a vraiment pas emballé. En fait, même l'ensemble du tome m'a pas du tout emballé, quoi. Sur le Batman et Robin, je trouve que ça devient très bourrin et même un peu brouillon.
Ouais.
À des moments, parce qu'on sait plus vraiment qui est qui ou quoi est quoi. Alors peut-être que ça va se clarifier après, mais là pour l'instant j'ai l'impression que c'est vraiment un gros nœud, on va dire, de toutes les pistes du scénario qui se croisent à cet endroit-là précis, quoi. Enfin, on a peut-être pas eu de bol, hein, justement, juste sur cet épisode-là, mais voilà, celui-là m'a pas trop plu. Ensuite l'épisode de Batman, alors là moi j'ai...
Alors attends, on va finir sur celui-là. En gros, il continue à raconter l'histoire de Red Hood qui revient pour se venger de Batman. Donc Red Hood, on sait que c'est un des anciens Robin.
Encore un.
Qui donc veut se venger de Batman, mais là pour le coup il s'attaque à Dick Grayson, vu que c'est lui maintenant Batman. Il a pris pour l'assister la jeune fille qui a une sorte de visage collé à cause du docteur qu'on avait vu dans les premiers numéros.
Ouais.
Le sujet, on va dire, la thématique, c'est principalement les relations entre le super-héros et son sidekick. On est dans la thématique de Batman et Robin, mais je trouve qu'ils ont un peu laissé de côté justement le côté Damian Wayne, le nouveau Robin, pour vraiment se concentrer sur les différences. Parce qu'en gros, on a trois personnages qui ont été Robin à un moment dans ce numéro. Quoi.
Oui.
Et surtout, ils se sont attachés beaucoup à la relation entre la jeune fille dont j'ai oublié le nom et le Red Hood. Et ça t'a pas...
Non, j'ai trouvé ça... Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez brouillon. Quoi.
Surtout qu'ils ont mis un nouveau super méchant sorti du néant qui est un peu ridicule. Le Flamingo, là.
Oui. Bah, il a... Alors, bon, là, je vais peut-être me jeter des pierres, mais j'ai même trouvé qu'il avait un petit air de Joker.
Ouais.
Air de Joker. Alors,
le Joker rose.
C'est vrai. Bon. Il a un petit air de Joker par sa posture, sa façon de se comporter. Voilà.
En plus bourrin quand même, et puis en beaucoup moins bavard. Hein. Voilà, en gros, les rares trucs que dit ce personnage, c'est...
J'ai pas dit que c'était le Joker, j'ai dit il a un petit air du Joker.
Oui, graphiquement. L'autre histoire, donc, est écrite, dessinée par Tony Daniel. Donc, Tony Daniel, on a déjà parlé, qui avait fait pas mal de trucs chez Image, dans The Tense, ce qui était assez marrant dans le genre. Et là, pareil, t'as...
Ah bah, alors là, écoute, donc là, tu te retrouves avec... beaucoup de dons dans cette phrase. Dick Grayson, donc, qui est toujours le Batman.
Ouais, c'est toujours lui.
Bruce Wayne, qui est là.
Alors, attention, j'ai eu une explication grâce au superbe podcast Comic City.
Ah, parce qu'à écouter
là... Il nous manque un bout de continuité. C'est pour ça qu'on est largué et ils nous l'ont pas expliqué dans le magazine.
D'accord, parce que moi, du coup, je me suis retrouvé, et là, c'est Dick Grayson, qui est Batman, et il y a Bruce Wayne, qui est aussi à la réception. Et là, tu fais, mais comment est-ce possible ?
Il faut savoir que... Comment il s'appelle ? Le gars qui était Silence, le docteur. Est-ce que tu te souviens de cette saga Silence, par Jeff Lubb et Jim Lee ?
Ouf, non.
Le gars qui avait des bandages sur la tête. Donc, en gros, c'était un docteur qui était un ami de la famille Wayne, qui s'est fait refaire le visage pour ressembler à Bruce Wayne et qui a pris sa place à la tête de l'entreprise. Voilà ce qu'il faut savoir. Si te manque ce petit détail, effectivement, tu es largué et je l'ai été autant que toi.
D'accord. Donc oui, donc voilà, parce que moi tu dis
coup, c'est moins choquant.
Voilà, tu te dis Bruce Wayne est mort. OK. Puis d'un coup tu dis mais pourquoi est-ce qu'il est là à la réception et qu'il parle ? Voilà. Donc oui, bah finalement peut-être c'est un peu moins obscur alors. Mais bon, peut-être qu'ils auraient peut-être pu faire un effort pour peut-être lire les comics qui nous mettent dans la petite boutique Panini, hein, et mettre une petite note d'info au début, des fois ils en mettent, c'est sympa, ça peut voilà.
Autre truc qui est important dedans, on a quelque chose qui m'a marqué, c'est toutes les références aux sagas. On continue avec du Jeff Lubb. Ça doit être un grand fan de Jeff Lubb, je pense. Avec la saga A Long Halloween. Parce qu'on a toute la famille mafieuse qui était présente dans la saga A Long Halloween, ouais, qui est présente. Et pareil, on peut être un peu largué si on ne connaît pas cette saga. Excellente au demeurant. Et c'était en plus une saga qui, apparemment, ce que j'ai cru comprendre, n'avait jamais été intégrée dans la continuité vraiment. Et donc, on a des personnages de cette famille mafieuse qui arrivent. Qu'est-ce que ça nous raconte à peu près, en essayant de résumer cette histoire de Batman ?
Ah ben, je te laisse le faire.
Ouais, t'as été largué à ce point-là ?
Non, là, enfin, écoute, vraiment, ça m'a... Voilà. Bon, c'est vraiment pas le Batman qui restera en mémoire pour moi. Donc, vas-y, je te laisse le bébé sur le coup. Hein.
En fait, on est toujours dans cette histoire de tentative de prise de pouvoir de... La pègre de Gotham, avec Black Mask qui semble un peu mener la barque, le pingouin qui est un petit peu dans la merde, et cette famille Falcon qui en gros avait quitté la ville il y a des années, qui essaye de se réincruster dans la mafia locale. Et toi donc, le fait de... Enfin, t'as été complètement perdu.
Ouais, ça m'a pas emballé. Il y a des... Enfin, au niveau dessin, c'est super joli.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé qu'on revenait presque sur la fin, sur du dessin, même à la... Au bon vieux Dark Knight, quoi. Bien sombre, bien...
Ouais.
Beau, mais au niveau de l'histoire, ça m'a pas emballé pour l'instant.
Bah, moi, je t'avoue que j'ai trouvé ça effectivement sympa, mais on est un peu confus. C'est-à-dire que si, comme nous, on a arrêté Batman un moment et qu'on a repris au numéro 1 de la série, il aurait fallu, je pense, avoir une partie un peu rédactionnelle, ce qui manque beaucoup, je trouve, aux publications Panini. Quelques pages pour nous résumer la situation et pour nous mettre les choses au clair. Bon, bref.
Et pourtant, c'est ce qu'il... Enfin, je vais te dire, voilà, sur les Ultimates, ils s'embêtent à le faire. Hein.
Mais là aussi, ils le font, mais c'est assez léger, je trouve. Tu vois, ils te disent tout ce qu'il faut savoir en départ.
Surtout, voilà, sur Ultimate, t'as rien à dire, quoi. Même si t'as pas lu ce qui s'est passé avant.
Oui, c'est aussi un objectif. Bon, on y reviendra. Hein, on y vient de suite. Ultimate Spider-Man, numéro 6.
Au prix de 4€, toujours chez Panini Comics.
Donc, ce numéro nous poursuit la joyeuse affaire de Kitty Pryde.
De la vie à 7. Oui. C'est à la maison, ou la vie de famille. Ou,
ouais. Tu n'as toujours pas appris à la guitare à nous jouer le jeu.
Là, tu m'as toujours pas envoyé le morceau.
Oh, attends, tu peux trouver sur Internet. J'ai honte de chercher ça chez moi. Ça reste sur moi.
Donc, pour rappel, donc, Spider-Man héberge une bande de héros SDF.
On va dire tente-mais plutôt, parce que Spider-Man, il fait pas grand-chose.
Si, il fait la vaisselle.
Ouais, ouais. C'était son tour.
Voilà, c'est son tour. Donc ils vivent à plusieurs donc super-héros, enfin mutants donc chez Tante May. Dernièrement donc Kitty Pryde a failli se faire arrêter donc par les agents du Hammer.
Je ne sais plus. Enfin bon, elle a failli se faire arrêter.
Donc elle s'est échappée et donc les autres essayent de la retrouver. Ils l'ont retrouvée. Elle les a envoyés bouler en leur disant que de toute façon c'était moins que rien.
Et surtout qu'il n'avait pas aidé quand elle en avait besoin. Petit con.
Ouais, mais enfin, là, c'est facile.
Voilà. Oui, c'est facile.
Non, la critique est aisée, hein. Mais bon. Et donc, du coup, on se retrouve avec la suite. C'est-à-dire nos personnages qui sont en train d'essayer de continuer leur petite vie d'ado.
Et surtout que Tante May leur a dit, à partir de maintenant, non, je ne veux plus voir un super pouvoir sortir, ce que je ne veux pas que vous ayez de soucis. Et sauf que, ah ouais, mais on ne peut pas aider des gens. Enfin, c'est des ados, quoi. En gros, quand on leur dit de ne pas faire un truc, ils n'ont qu'une envie, c'est de le faire. Sauf, surtout... quand ils doivent commencer à gagner de l'argent en allant bosser.
Ah, attends, c'est Crazy Frog.
Crazy Frog, enfin le truc de fast-food dans lequel bosse Peter.
Voilà, et quand on est un jeune, un newbie dans la chaîne Frog, eh bien on est un tétard.
Voilà. C'est très très drôle, ça te rappelle tes expériences de fast-food tout aussi humiliant.
Non, parce que j'étais pas assez communicatif pour être en caisse, moi j'étais en cuisine.
D'accord.
Ils ont essayé, hein, mais ils ont dit non, vous mordez trop les clients, donc ça marchera pas.
D'accord. Bref, on suit un peu tout ça, et en parallèle...
On va donc suivre donc, toujours Spider-Man, qui va aller au Daily Bugle, pour montrer justement une vidéo... qui permettrait peut-être de réhabiliter Kitty Pryde en disant bien que...
En montrant les méthodes du gouvernement.
Voilà. Et donc, on va voir un nouveau Ben Urich.
Le Ben Urich de l'univers Ultimate. Oui, qui change beaucoup de celui qu'on connaît.
Ouais, là, celui-là, il change vachement. Parce que nous, c'était un vieux de la vieille, quoi. Un bon vieux reporter... le mec avec le long par-dessus,
son vieux carnet de notes
pourri, tu sais, avec le dictaphone, voilà, c'était...
Et là... À cassette. Dictaphone à cassette.
Et là, t'as un peu une gravure de mode, quoi.
Ouais, ouais. Enfin bon, une gravure de mode des années 90, hein, parce que le bouc et les cheveux longs, c'est plus...
Je me sens pas visé.
Ça a changé.
Je me sens pas visé.
Pourquoi, t'avais le bouc et les cheveux longs aux années 90?
Je me sens pas visé.
On l'avait tous. Donc, voilà. Et donc, Ben Urich les teste pour savoir jusqu'où ils vont aller. Et surtout, il va se passer un événement très particulier, c'est que quelqu'un va... prendre la place de Peter Parker sans savoir qui il est, et on va voir les conséquences que ça va avoir. Globalement, qu'as-tu pensé de ce tome? Donc on a toujours au scénario Brian Michael Bendis, et on a au dessin ce que j'adore, mais dont je ne retrouve plus le nom là maintenant de suite, parce que voilà.
Parce que j'arrête pas de tourner les pages.
Parce que t'arrêtes pas de tourner les pages.
La Fuente.
David La Fuente, avec son style, moi que j'aime beaucoup, très dynamique. Un peu caricatural, mais très très bien foutu, surtout depuis qu'il a changé la coupe de Peter Parker. Donc, qu'en penses-tu?
Eh bien, j'ai bien aimé, mais, parce qu'il y a toujours un mais, Spider-Man, il est mauvais, quoi.
C'est un ado, c'est un petit merdeux.
Il s'est cassé la bouche en deux secondes.
Eh ouais. Ouais, mais... il s'y attendait pas trop non plus. Hein.
Ouais, mais enfin, a priori, le mec, il peut affronter des... Enfin... T'as des monstres gigantesques qui arrivent du futur et il... de toile, ça y est, c'est fait. L'autre, il lui met une droite, ça y est, il est KO, quoi.
Bah ouais.
Voilà. Ouais, ouais, c'est un peu raccourci, un peu rapide. Mais sinon, le dessin est génial et il se passe vraiment quelque chose.
Ouais, plein, pas mal. Les situations mises en, voilà, en scène sont vraiment...
Donc, là, on sait qu'il va être grave, mais grave, 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 grave.
Dans la merde, ouais. Mais c'est vrai que, puis en plus, je trouve que bon, alors on reste dans des situations très sitcom, hein.
Mais
très,
ado,
très,
hein,
très, très,
mais
bien, très, très, très bien géré. Donc, le Spider-Man, tu le recommandes? Bah, moi aussi, je continue à prendre plaisir à les lire. C'est bien écrit, ça avance, franchement, ça reste léger, effectivement. C'est mais c'est une BD sympathique. Et nous passons au tome 2 de Remington par Tot et Adrian.
Chez Ankama.
Alors, tu avais été assez circonspect par le tome 1 et tu t'es dit, on verra au tome 2.
Non, là, soyons honnêtes, revenons en arrière, j'avais même dit que c'était mauvais, que c'était pas bon et que je trouvais ça que c'était un petit peu trop, un scénario trop entendu.
Trop classique.
Trop classique, les dessins étaient pas mal. Eh bien, voilà, donc je peux faire mon mea culpa. Je me suis régalé avec le tome 2.
D'accord.
Alors c'est vrai qu'au début j'étais là à lire le presque du bout des doigts en me disant ouais ça va, et en fait non, je me suis bien pris à l'histoire et c'est vrai que bon voilà, des petits rebondissements qui font bien, des petits flashbacks qui nous permettent de bien revenir à la situation et l'histoire qui avance et qui devient très sympathique. Bon, alors il y a de l'humour un peu gros lourd à la Troll de Troie des moments. Mais ça reste du bon humour. Voilà.
Oui, c'est...
Moi j'ai bien, non, voilà vraiment, l'histoire a bien avancé, j'ai bien rigolé et j'attends assez impatiemment presque, on va dire, le tome 3.
Ouais. Bah alors au niveau de l'histoire qu'avance, tout simplement, donc on se souvient que notre personnage est dans une situation plutôt mauvaise à la fin du tome 1. Là on voit se sortir de cette situation, on nous explique comment. Et puis essayer de comprendre comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation et comment est-ce que des gens sont arrivés sur les mêmes pistes que lui, mais avant lui.
Oui.
Et on commence à en apprendre un peu plus, il y a du mystère qui se met en place. Moi je trouve les dessins effectivement super sympas, super dynamiques. La première planche est vraiment classe, avec Remington qui baigne dans son sang, mais la planche est faite de telle façon que c'est assez joli. Parfois, on a l'impression quand même que le dessinateur a moins le temps de s'appliquer que sur le tome 1. C'est un peu l'impression que ça m'a donné, principalement au niveau de l'ancrage. Je le trouve, c'est pas forcément un mal. Hein. Je le trouve plus dynamique, tu vois, plus avec des traits plus lâchés. Mm-hmm. Et les couleurs sont vraiment superbes, même si parfois je les trouve un petit peu ternes.
Ça fait partie, je pense, du style.
Et oui, c'est drôle. Alors après, il y a tout le côté encyclopédique derrière. J'avoue, je préférerais avoir
quelques pages de plus
que ça. Ça reste à 3,50€ pour une histoire sympathique. On a un peu plus de 20 pages. On doit avoir 24 pages de BD. Et l'univers qui se développe autour. Ça me donnerait presque envie de réactiver mon compte Dofus.
Je t'en prie.
On enchaîne avec une autre initiative de chez Ankama qui s'appelle Akiba Manga. Qu'est-ce qu'Akiba Manga ? Akiba Manga est un mensuel. Alors, le numéro 2 est déjà sorti, donc vous en parlez un peu tard, on est désolé. Je n'ai lu que le numéro 1, qui coûte donc 4,95€ et qui nous fait du manga, mais assez particulier. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de reproduire le système de prépublication à la japonaise. Dans le magazine, il y a plusieurs séries, là il y en a 7. Et en fait, on peut voter sur le site pour savoir laquelle on veut mettre en avant. On vote sur le site.
Et du coup, c'est aussi pour avoir la suite. Hein.
Pour avoir la suite. Le mois suivant, les séries sont toutes présentes, toujours. Dans le numéro 2, il y a encore toutes les mêmes séries. Mais celle qui fait la couverture, c'est celle qui a gagné. Et quand les histoires seront finies, celles qui ont eu le moins de votes sont jetées et les autres continuent. Et celles qui auront le plus de votes seront publiées en album. Voilà sur le principe. Autre grosse originalité de ce magazine, c'est que c'est du franco-japonais. C'est-à-dire que les scénaristes sont français et les dessinateurs sont japonais. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui allait chercher des dessinateurs au Japon, il me semble que c'est Jean-David Morvan, mais je ne veux pas dire de bêtises, pour les recruter, leur proposer de travailler là-dessus. Et donc on se retrouve avec 7 histoires très très différentes, très variées, et aussi, on va dire en bonus, une bande dessinée de Shingo Araki, qui avait travaillé sur Les Chevaliers du Zodiac et Goldorak, qui est aussi à suivre, et qui est là un peu comme tête d'affiche. Voilà pour le principe, moi, que je trouve très très sympa. Enfin, on va finir sur le côté magazine avec, à la fin, de la chronique manga, un petit peu de culture asiatique. Le concept se tient. Maintenant,
Il se tient.
Qu'as-tu pensé des histoires?
Déjà, je voulais féliciter parce que c'est quand même très courageux. Parce que bon, je pense que ça peut être un format qui peut être vraiment très, 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 très casse-gueule. Bon vent à eux, parce que voilà, le projet est vraiment intéressant et il permet vraiment de voir des choses nouvelles.
Oui.
Alors après, moi, au niveau des histoires, il y en a qui m'ont plu, il y en a qui m'ont plu un petit peu moins. Je pense que voilà, c'est ça le principe aussi, hein, c'est vraiment de dégoter, voilà, de voir qu'est-ce qui peut plaire au lecteur, qu'est-ce qui nous plaira, on va dire, un peu moins.
Bah, moi, c'est surtout, il y en a qui m'ont intrigué, parce que c'est vrai que c'est assez court, chaque histoire, c'est assez court. Quand on est habitué à avoir un tome de manga avec... vraiment toutes les pages de l'histoire. Là, c'est assez court. Ça m'a énormément intrigué. Il y a des histoires qui ne m'ont pas plu du tout. Il y a des dessinateurs que je n'ai pas aimés, carrément. Hein.
Pourquoi tu prends une voix plus grave quand tu dis « je n'ai pas aimé » ?«
Pas aimé ». Il y en a que j'ai adoré. Tu vois, je prends une voix aiguë quand j'aime. Vous pouvez donc, en analysant ma voix, savoir si je mens quand je parle d'une série.
Arrête de regarder Lie to Me, toi.
Mais c'est surtout très varié. Malheureusement, en ce qui me concerne, j'ai plus été déçu que content, et j'en suis au point où ce que j'aimerais, c'est que les histoires que j'ai aimées gagnent pour être éditées en solo et pour que je puisse continuer à les lire. Parce que je pense pas que je vais continuer à acheter Akiba Manga.
Surtout puisque là, je viens de voir, le prix au départ, c'est un prix de lancement. Alors,
c'est pas un prix de lancement, ils ont maintenu le prix. Je sais pas pourquoi il y a écrit prix de lancement 4,95€, il me semble que le tome 2 au même prix. Il y a de la lecture, hein. c'est un beau pavé,
il y
a 220 pages.
C'est vrai même que les petites news à la fin sont quand même assez intéressantes. Au début aussi, il y a un petit truc sur Cobra, voilà.
Mais
il y a à lire dedans.
Allez, on va faire vite fait, quelle est l'histoire qui t'a le plus plu?
Donc ouais, les deux séries, moi, qui m'ont vraiment... je mettrai en avant, c'est les 10 de Sanada.
Ouais, la première, celle qui a des pages couleurs.
C'est pas pour son casque qui a des oreilles de chien, hein, parce que ça, c'est totalement personnel comme avis. mais l'histoire est sympa. Et par contre, il y a Terminus, l'histoire commence, on a le personnage qui se jette sous un train.
Oui.
Là, je spoil pas, c'est la première page.
C'est la première page, oui.
Et là, vraiment, le scénario, il y a plein de choses qui. On aimerait en savoir plus. On part de là et on va remonter dans le temps pour savoir ce qui s'est passé avant. Alors, il y a des choses qui se mettent en place. On peut avoir quelques doutes sur certaines pistes. Mais c'est vrai que voilà, c'est une série que j'aimerais bien connaître la fin.
Moi, j'ai surtout été marqué par un illustrateur, plus que par les histoires. Ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'il a dessiné deux histoires, ce mec-là, dedans. Il s'appelle Savane et il a dessiné Pandémonium et Absinthe. Et je trouve qu'il a un style super classe. D'ailleurs, c'est lui qui fait la couverture. Je trouve que c'est lui qui a le style le plus professionnel. Alors que certains, on sent le côté amateur. C'est-à-dire qu'ils sont sans doute de bons dessinateurs, mais il y en a qui ont vraiment un côté amateur dans le trait.
Oui, mais justement, est-ce que c'est pas dans ce style de bouquin-là
que les gars vont pouvoir faire leurs armes. Effectivement.
Alors, je vois, si tu prends déjà un pro, je vois pas trop l'intérêt.
Mais au niveau de la difficulté pour moi vis-à-vis de ce genre de bouquin-là, c'est qu'on est arrivé à un stade où on a tellement de publications déjà de qualité. Acheter des bandes dessinées où les personnes débutent, c'est quelque part une prise de risque, enfin, que tout le monde ne prendra pas.
Ouais, mais il faut bien qu'ils se lancent un jour, quoi.
Je suis tout à fait d'accord.
Je veux dire, en plus, il faut bien qu'ils se lancent un jour. Et puis, le dessinateur qui commence aujourd'hui dans Akiba, ça se trouve dans 5 ou 10 ans, mais son style graphique aura changé. Et le truc sur lequel tu vomissais il y a 5 ans, peut-être que dans 5 ans, tu feras... Waouh, comme il a progressé, maintenant c'est trop beau ce qu'il fait.
Oui. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est vraiment une initiative à soutenir. Je vous recommande d'y jeter un œil si vous avez l'occasion. Parce que moi j'ai été très curieux par le magazine. Je regrette pas du tout d'avoir acheté le numéro 1. Je sais que c'est pas quelque chose que je vais continuer parce que j'y trouve pas mon bonheur, quoi, entièrement. Mais c'est. Voilà, je vais juste avoir le regret parce qu'il y a une ou deux séries où effectivement j'ai envie de savoir ce qui va se passer.
Ok. Donc je ne dis pas, on passe à la suite.
Il va falloir que tu arrêtes de la faire à tous les épisodes maintenant, cette blague.
Mais du coup, je ne sais plus quoi dire, moi. Bon, alors maintenant, Body World ou Jérôme?
Allez, on attaque Jérôme Cabloche, on va attaquer Body World, on se le garde pour plus tard, parce que Body World, il est... C'est du costaud.
Ouais, il roule un peu avant, parce que sinon ça va être...
Jérôme K, Jérôme Blush, le tome 22. Mathias, chez Dupuis, par Daudier. Qu'y a-t-il à dire pour commencer? Mais qu'est-ce que c'est que cette couverture orange?
Bon, ensuite...
C'est la première truc à dire. Mais qu'est-ce que c'est que cette couverture orange?
Non, mais la coupe, c'est pas la plus gênante, c'est surtout la tranche qui...
Ils ont changé toute la maquette. C'est-à-dire que j'ai 21 tomes de Jérôme Blush qui sont superbement dans ma bibliothèque, tous pareils. Et là, non. Alors, effectivement, la collection Repérage n'existe plus. Mais merde, les boules.
Ils auraient quand
ça
même
faire moche.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est
que là, surtout que le dos, ils ont gardé le ton. Enfin voilà, enfin ils ont changé toute la maquette. C'est un peu dommage. Mais ça, c'est du détail.
C'est le détail du mec qui suit la série depuis le début, qui est à fond, quoi.
Voilà. Donc Jérôme Bloch, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un détective privé de quartier français qui va plutôt avoir comme mission de retrouver le canari de la voisine qui s'est échappé. D'ailleurs, je crois c'est le début d'un des tomes, aller sauver le monde ou récupérer enfin les histoires d'adultère et compagnie. Enfin, c'est des histoires en général plutôt simples du quotidien. Et Jérôme Bloch est un personnage très attachant. Il est maladroit, il sait pas conduire. Il a pas son permis. Il se la pète à la Bogart avec son impair et son chapeau parce qu'il est fan de tout ce qui est roman noir, détective privé.
Mais enfin, il a l'impair et le chapeau, mais enfin, il a pas la classe. Hein.
Ouais. Et il est surtout foncièrement gentil, voire naïf. Et on le voit encore dans ce tome-là, surtout vis-à-vis des relations avec sa copine, qui lui fait bien, qui essaye de lui faire passer des messages. Qui ne passe pas.
Des messages subliminaux, en fait.
Ouais, et ça passe pas. Et il comprend pas. C'est une série, moi, que j'apprécie beaucoup parce que le personnage évolue assez peu, en fin de compte, mais sa relation avec sa copine a évolué. Par exemple, ça fait pas tant de tomes que ça qu'ils vivent ensemble.
C'est vrai.
Mais ça n'a jamais. Il n'y a pas eu un épisode où ils ont fait l'épisode où ils vont vivre ensemble. C'est juste que d'un coup, au détour d'un truc, on découvre qu'ils vivent ensemble.
Ben en fait, c'est un petit peu comme dans la vie, quoi. La femme, tu vois, va de manière insidieuse, petit à petit,
prendre possession de ton espace.
Et d'un coup, tu réalises que ben, t'as plus une BD à la maison, quoi, parce qu'elle a tout viré.
Ouais. En tout cas, et en plus, un personnage féminin que j'aime beaucoup, elle est hôtesse de l'air, donc c'est facile de s'en débarrasser pour une histoire quand on en a besoin. Et on la fait revenir en général quand Jérôme a un problème parce qu'il s'est retrouvé au poste, parce qu'il a fait une connerie qui était pas au bon endroit. Et là, on a en parallèle l'histoire de Mathias, qui en gros s'échappe de prison. Il faisait partie d'une bande de criminels, ils avaient fait un gros braquage. Voilà par quoi ça commence, avec l'aide d'un jeune homme, et il se retrouve blessé. Et en parallèle, on a la concierge de Jérôme Bloch qui lui dit que son amie Mireille ne répond plus au téléphone. Alors Jérôme va, pour rendre service à sa concierge, essayer de se renseigner sur ce qui se passe. Et il se fait chopé par le GIGN.
Ouais, alors faut quand même dire quand même que le gars, quand il va voir quelqu'un, il n'hésite pas à passer par-dessus la grille, à rentrer dans la maison, il fait un peu comme il veut, quoi.
Oui, oui, bah il se renseigne au cas où la pauvre dame, elle a eu un malaise, hein, parce que c'est vraiment ça qui se demande. Et en fait, il se chope le GIGN. Et il se retrouve, comme souvent dans Jérôme Bloch, embarqué dans une histoire qui le dépasse totalement, parce que lui, bah, il veut aider les gens. Et ben, des gens n'ont pas forcément envie qu'on les aide. Et à essayer de retrouver surtout le fils de Mireille, donc l'ami de Zelda, sa concierge, et qui est aussi le fils de Mathias, qui a donc disparu. Voilà pour l'intrigue. Maintenant, que dire du déroulement, de comment ça se passe ? Enfin, pour moi, c'est du Jérôme Cabloche assez classique, mais toujours bien foutu. Je trouve que ces scénarios, au niveau du polar, sont bien écrits.
Les scénarios sont très bien écrits. Au niveau du dessin, en plus, Daudier voilà, fait vraiment des recherches de folie.
Il faut voir aussi au niveau de la mise en page. Il avait fait dans un vieux Spirou, il a expliqué comment il travaillait. C'est énorme.
Non, pas énorme.
Oui.
C'est monstrueux.
Ouais,
c'est monstrueux.
Il ne met jamais une case à un endroit par hasard. Il a toujours un cadrage qui réfléchit très, très.
Surtout fort. Aussi, il travaille souvent d'après photos ou d'après choses qui sont réelles. Quoi.
C'est peut-être pour ça que les tomes sont un peu longs à sortir.
Oui, mais quand c'est long, c'est
voilà. Bon. Donc, tu as apprécié ce tome ?
Bah, toujours autant que les précédents.
Oui.
Alors maintenant, c'est vrai que ce que je te disais la dernière fois, j'aimerais bien qu'il essaie peut-être de nous faire peut-être une histoire un peu plus longue. Alors je sais que du coup, c'est vrai qu'avec la langue... Fin...
Oui, la vitesse, c'est du franco-belge, hein, c'est assez long à sortir.
Voilà, c'est assez long à sortir. C'est vrai que peut-être que du coup, une histoire qui dure sur peut-être deux ou trois tomes, ce serait un petit peu trop long. Ouais. Ça l'obligerait peut-être lui à travailler différemment. Mais bon, ça pourrait être intéressant peut-être justement d'arriver à ça.
Là, il y a une ouverture sur peut-être une suite à l'histoire. Je ne sais pas si ça continuera dessus, parce qu'il peut aussi bien fermer donc à la fin. Mais moi, je trouve que oui, le truc qui me manquerait plutôt, c'est de retrouver un peu ce qui m'avait marqué dans les premiers Jérôme Bloch que j'avais lus. Passé recomposé, ceux où on s'intéressait aux origines de Jérôme Bloch, en fait, où il y avait quelque chose qui faisait changer le personnage qu'il faisait avancer parce qu'il découvrait qui il était. Alors effectivement, s'il en fait trop, ça va faire un petit peu cheveux sur la soupe. C'est pas évident de trouver un juste milieu entre la découverte, la révélation et le truc sans queue ni tête. Mais je pense qu'il y aurait quelque chose qui pourrait avancer, qui serait pas mal d'avancer pour sortir un peu le personnage de son quotidien. D'un autre côté, c'est aussi le fait que le personnage soit un personnage du quotidien qui fait qu'il est touchant et intéressant.
Un truc, moi, qui pourrait, je pense, bien le sortir, ce serait un bébé.
Ouais.
Le jour où Jérôme a un bébé, là, ça va être top. Quand même.
Ouais.
Sur le Solex, avec le Lando.
Ouais. Mais ne serait-ce que Jérôme qui fait sa demande en mariage. Ou...
Oh mon Dieu.
Ça pourrait être quelque chose de sympa, une enquête pendant son mariage, enfin quelque chose qui découvre sa belle famille, qui elle pourrait avoir des mystères.
Enfin, c'est vrai, en plus, du coup, on ne sait rien de.
Ouais, ouais.
Ah, là, du cerise. Coup, j'ai un trou. Cerise. Cerise.
C'est cerise, hein?
Capucine.
Non, je sais plus. Ah, Cerise, c'est la coloriste, c'est sûr.
J'ai dit aux Cerise, c'est celle de Groupama aussi, mais...
sa copine, quoi.
Ouais, on va dire ça.
Bref, si vous connaissez pas Jérôme Bloch, lisez-le. Alors, c'est un très très bon tome. Enfin, ça peut se lire vraiment indépendamment sans connaître la série. C'est important à savoir.
Tout à fait.
Et puis, si vous accrochez, de toute façon, il faut lire les premiers qui sont vraiment géniaux. Et il y a toujours des intrigues policières très bien faites. Les premiers, d'ailleurs, étaient co-scénarisés par Macchio.
Eh bien, tout de suite,
on attaque
du lourd, mais du très lourd. Alors, ça fait 29 €.
Ouais.
Donc déjà, financièrement, c'est lourd.
Mais c'est beau.
C'est au niveau page, c'est lourd aussi. Parce que je ne peux pas vous dire combien il y a de pages, de toute façon, ce n'est pas écrit.
Et, tu vas les compter une par une.
Ouais, j'ai que ça à faire. Et donc, ça s'appelle Body World. Alors là, nous avons on peut dire un coffret de la mort.
Oui, un beau coffret avec une petite jaquette cartonnée, brillante.
Brillante, qui cadre bien avec le livre. Le livre se lit en format portrait sur du
A5. Du A5, ouais, à peu près.
Du A5. Alors, donc, tout de suite, passons par la case le format. C'est beau. C'est une impression qui est magnifique, quoi.
Ah oui, non, c'est un travail d'édition superbe.
Superbe.
C'est chez Dargaud, d'ailleurs.
Voilà.
Et on peut, je pense, aussi parler de l'auteur qui s'appelle Dachaud et qui, je pense, a dû donner un coup de main à ça. Donc, auteur indé qui travaille beaucoup sur Internet. Et ça a son importance parce qu'il faut savoir que Body World a d'abord été diffusé sur Internet.
La couverture, très jolie. Moi, ça m'a fait penser à des jeux de cartes.
Oui, un côté jeu de cartes.
Je pense que c'est fait pour. Hein,
oui.
Avec donc les quatre personnages principaux de l'histoire. Donc cette lecture donc verticale qui est splendide
n'est pas forcément très pratique.
Là il faut être honnête. On va pas dire n'est pas forcément.
Ça dépend dans quelles conditions tu lis.
Mais tu veux le lire où? Alors je vais être honnête. Je veux dire, on est assis sans table, c'est même pas la peine. D'accord. Donc,
voilà.
Grosso modo, la lecture aux chiottes pour ça, vous oubliez.
C'est très important la lecture aux chiottes pour
voilà.
Mathieu.
Deuxièmement, vous dites tiens, je vais lire ça au lit le soir. Ben non. Non, parce qu'il faut avoir les deux mains, il faut pouvoir poser le bouquin, sinon c'est pareil, c'est galère. Donc, on en arrive au troisième problème, et là, c'est le problème de la première lecture, Pierrick.
La première lecture, c'est pas évident.
Parce qu'il faut séparer les pages qui sont collées à cause de la belle couleur sur le côté où il y a écrit Body World en orange.
Voilà, c'est très joli, mais toutes les pages sont accrochées les unes aux autres, et à chaque fois qu'on ouvre la page, ça fait... Et c'est assez, voilà, le premier lecteur est un peu touché, difficile, et puis en plus on est là, on se dit « Ah, faut que je fasse doucement, sinon je vais abîmer mon livre », enfin bon, voilà. Bon, on a passé le côté technique, le côté pratique.
On a passé le côté technique au côté pratique.
Si, un petit truc pratique bien foutu, la première page cartonnée a un rabat qui permet d'afficher le plan de la ville où se passe l'histoire, et il y a des rappels pendant tout le bouquin de l'endroit où on se trouve au moment de la lecture.
Oui, alors par contre, ça là-dessus, j'ai pas trouvé l'intérêt.
C'est le côté interactif. Je pense. Moi, c'est ça que j'ai trouvé ça très sympa, c'est ce côté interactif. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la lecture, ils disent on est à tel endroit, et là, tu vois l'endroit où ça se passe. Et puis ensuite, ça lui permet, dans certaines planches, de remontrer le plan, mais dans des conditions différentes. Par exemple, quand il y a l'incendie qui se déclenche, il remonte le plan avec le côté incendie.
Ok. Donc,
que nous raconte Body World ?
Eh bien, une histoire à peu près bizarre.
Voilà. Oui.
On va donc suivre les aventures donc, de Polly Panther, un professeur, qui vient enquêter donc, dans la ville de Boneborough, qui vient enquêter donc, sur une nouvelle espèce de plante.
Alors, Bonnemoro est une ville un peu expérimentale, parce qu'on est dans, c'est du futuriste hein, quand même, parce que c'est une sorte de ville qui vit en autarcie, avec des valeurs à l'ancienne. C'est pas la grande ville, quoi.
C'est pas la grande ville, c'est on est coupé du monde et on vit autrement.
Voilà.
Mais Bonnemoro, en plus, est très connu pour le jeu de...
J'ai oublié le nom.
Le jeu du dé.
Ou, le jeu du dé, oui.
Il faut balancer un dé 10 dans une case et ils ont de la colle à dé.
Oui, il nous explique bien toutes les règles et la colle à dé qui permet que le dé tienne mieux sur la main pour le faire rouler, mais qui est aussi une substance hallucinogène, enfin, qui provoque une dépendance,
enfin bon.
Et qui fait perdre les neurones aussi.
Donc voilà, donc le personnage principal, donc Polly Panther, la prof du lycée de Bonnemoro qui s'appelle Jem Jewell, un joueur de dé qui s'appelle Billy Borg, et la copine de Billy Borg qui sera aussi peut-être un peu la copine de Panther mais sans l'être, ou celle de Jim, enfin bon là. On va
c'est un peu compliqué à ce moment-là.
Pearl Pitch qui est donc le quatrième personnage principal.
Il faut savoir que Panther se retrouve dans la ville pour étudier une plante en particulier parce qu'en fait son métier c'est de tester toutes les plantes possibles et imaginables pour savoir les effets qu'elles ont en tant que psychotropes. Et donc c'est un spécialiste des drogues. Et il fait des analyses là-dessus. Ils ont trouvé une nouvelle plante qui a des particularités, des propriétés vraiment très très étranges. Car en gros, quand on la prend, les esprits des consommateurs se mélangent.
C'est ça. Et on ressent ce que ressent l'autre, on pense ce qu'il pense, enfin on voit ce qu'il pense.
Ce qui amène, et là on va en venir à la forme en tant que bande dessinée, à des mises en page assez surréalistes. Au niveau de la mise en page, c'est au départ, ça semble assez classique. On a un bon gros gaufrier classique de 3 sur 4 qui se poursuit tout du long. Mais le mec, il va l'utiliser pour le démonter dans tous les sens, en mélangeant des cases, en mélangeant des dessins, dans un style qui graphiquement est quand même très très particulier. Qu'as-tu pensé de ce style graphique ?
C'est assez désorientant au début. Désorientant.
Désorientant, oui, ça existe.
Mais ouais, voilà, j'étais assez un peu perdu au début, mais puis finalement, on s'y fait quoi.
On rentre dedans, on rentre dans l'histoire. Dedans.
Alors c'est vrai qu'au début, voilà, ça reste classique, donc du coup, ça reste facile. Après, quand on arrive vraiment sur l'utilisation du psychotrope, sur quel lien ça va faire dans la vie, enfin, là, on arrive à des dessins et des cases qui sont de plus en plus bizarres, des mélanges de couleurs, des mélanges de visages.
Une recherche très moderne d'un point de vue plastique. On est très très proche de l'art moderne. D'ailleurs, tous les en-têtes de chapitres sont des dessins, enfin des peintures, qui font beaucoup penser à de l'art moderne. Globalement, c'est bizarre, on est d'accord. Mais est-ce que ça t'a plu ?
Alors, jusqu'à la moitié, je me suis un peu posé la question de ce que j'étais en train de lire.
Oui.
Même si je suivais l'histoire. Puis, au fur et à mesure, on arrive à avoir de plus en plus d'intérêt. On comprend de mieux en mieux, on va dire, ce que recherche chacun des personnages.
D'accord.
Parce qu'il y a quand même une petite recherche un peu personnelle sur le cheminement personnel des personnages et aussi sur ce que chacun veut pour sa vie future. Il y en a qui ont les regrets de leur vie passée, ce sont les anciens de l'histoire. Il y a les jeunes qui se posent des questions sur leur avenir, qu'est-ce qu'ils vont faire visiblement en restant à Bonnemoro ou encore au contraire en quittant Bonnemoro pour aller dans la grande ville. Il y a plein de cheminements comme ça. Puis après, il y a ceux qui veulent rester aussi dans... un peu les intégristes de la ville qui est en dehors du monde, qui veulent tuer l'étranger, parce que voilà, l'étranger c'est le mal, quoi. C'est lui qui va mettre le verre dans le feu.
Ça fait un peu western.
Ça fait western, voilà. Il y a plein de mélanges, et c'est vrai que. Ouais, aussi, il est banni à un moment.
Oui, à un moment, il est banni du village.
J'ai adoré l'affiche du banni.
Oui.
Ouais, enfin, rajoute des cornes et une queue, comme ça fait vraiment démoniaque.
Et donc, il y a des choses qui t'ont fait rire, donc il y a aussi un côté humoristique.
Il y a un côté humoristique, voilà. Le mec, quand il se fait des tripes, il y a des moments, c'est hallucinant.
Oui, surtout que d'un point de vue graphique, il nous emporte avec lui, quoi, dans son délire.
Ouais.
Il nous prend complètement dedans. Bah, moi, j'ai été un peu pareil, j'ai eu du mal au début. Puis on commence à mieux connaître les personnages, à mieux rentrer dedans, et à s'attacher à eux, et à vouloir savoir ce qui va leur arriver, en fin de compte. Jusqu'à la fin, où on apprend vraiment ce qui se passe, où la situation évolue, et où, bah, comme dans du western, quoi, il y a un étranger qui arrive en ville, les gens sont pas très d'accord, et l'étranger va changer la ville à jamais. Un truc qui m'a gêné, par contre, c'est que sur la fin, on voit vraiment que c'était fait pour une diffusion sur le web. Il y a les dernières planches qui montrent la ville dans toute sa hauteur et qui, en fait, ont dû être découpées sur plusieurs doubles pages Et en fait, on devrait avoir un dessin qui normalement se suit sur 6 ou 8 pages en tout, et qui là est découpé pour les besoins de l'édition papier. C'est le truc qui m'a un peu perturbé d'un point de vue de l'objet. Maintenant, je trouve que pour une publication papier d'une bande dessinée qui apparemment était quand même très très bien adaptée aux médias internet, il y a eu un très beau travail d'édition. Alors, c'est pas pour tout le monde, soyons clairs. Tu viens de comprendre un truc énorme, c'est ça ?
Ah ouais.
Tu viens d'avoir une révélation sur la BD ?
Ah ben écoute, je pense bien, là mon idée, je pense que c'est un truc vachement important.
D'accord. En gros, un truc qui, en le relisant, permet d'avoir des révélations. Ça, c'est pas à mettre si vous cherchez un truc défoulant, pas prise de tête. Ça fait un peu travailler le cerveau.
C'est votre chemin.
Voilà.
Par contre, si vous voulez en prendre plein les yeux avec des trucs un peu, enfin, très originaux, un peu novateurs, oui, un peu psychés.
Si vous êtes sensible à l'art moderne, ouais, à la recherche
esthétique. C'est très intéressant.
Ça vaut le coup.
Et maintenant,
pour notre intégrale, nous avons choisi une putain de série qui vient de s'achever en VF. Nous allons parler
quelque chose de monumental, d'énorme.
On va parler de
Planétary.
Planétary.
Énorme.
Je dirais peut-être la meilleure série de Warren Ellis. En concurrence avec Transmet, à pas grand-chose, mais j'aurais tendance à préférer Planétary.
Tu achètes là aujourd'hui.
Ah ouais, j'aurais tendance à préférer Planétary. Planétary est une bande dessinée qui est arrivée en France dans des circonstances très très difficiles.
Gestation longue.
Il faut savoir que
accouchement difficile.
Planétary, une série Wildstorm de Warren Ellis, est sortie de l'imagination de Warren Ellis en même temps à peu près que The Authority. Ça a beaucoup de liens avec The Authority.
Beaucoup.
The Authority nous montrait un peu les policiers du monde qui se mettaient en place après la destruction de Stormwatch. Donc il y a eu un intégral qui est sorti que je vous recommande parce que c'est une très bonne série. Planétary nous montre les archéologues de l'univers Wildstorm. Et en quoi est-ce que c'est intéressant ? C'est que l'univers Wildstorm est un univers jeune qui a été créé dans les années 90, fin des années 90 même, je dirais presque. Début des années 90, 91, 92. Et qui, en gros, n'a pas de passé comme peut l'avoir...
Quand j'avais le bouquet et les cheveux longs.
Voilà. N'a pas de passé comme pouvait l'avoir... On a un titre. comme pouvait l'avoir... Ah putain, ça y est.
L'épisode 28 qui sent le bouquet et qui a les cheveux longs.
Ouais, c'est ça. Donc, qui n'a pas de passé comme peut l'avoir l'univers Marvel et l'univers DC, encore pire. Et donc, Warren Ellis a voulu créer un groupe de personnages qui enquêtent sur le passé, sur les phénomènes étranges du passé de l'univers, pour savoir quoi faire de l'avenir, entre guillemets, savoir comment gérer l'avenir. Et ce groupe-là, c'est Planétary. Planétary, c'est un groupe particulier, c'est une agence. On va y revenir. On va d'abord parler de l'édition. C'est d'abord paru dans un double magazine, c'était Spark, qui est un petit éditeur qui n'a pas duré, qui nous sortait ça en double magazine. Ouais, t'as vu, je te fais de l'histoire de la BD.
Oh la vache, là, tu...
Avec, tu sais, c'est des magazines que tu retournais. T'avais d'un côté une histoire et de l'autre une autre.
C'est Alain Decaux raconte.
Ouais, c'est Alain Decaux raconte. Et donc, Spark Magazine nous avait fait d'un côté, on avait The Planétary, et de l'autre côté, on avait Tom Strong de Alan Moore.
Oula !
Ah ouais, c'était le magazine au top quand même. Deux séries magnifiques dedans. Pas de bol, ça a pas marché. Et donc, on a tous espéré de voir la suite de Planétary. Ensuite, il y a Semic qui a lancé Planétary. Ils ont sorti un tome. Ils ont sorti deux tomes et ils se sont fait sortir par Panini. Pour résumer.
Joli résumé.
Voilà. Donc, Panini a repris la suite. Alors, d'un point de vue achat, déjà, je ne sais pas si les deux premiers tomes ont été réédités. Je l'espère, parce que je vérifierai ça et je vous mettrai les liens qui vont bien sur le site.
Parce que ça a une importance.
Parce que ça a une importance, parce que c'est une série très, très bien écrite. Et enfin, il faut savoir qu'il y a aussi un hors-série, qui est en gros le Planétary numéro 0. Qui nous raconte quelques histoires parallèles, donc avec des crossovers. L'équipe de Planétary est composée de 3 personnes. Nous avons
le batteur.
Le batteur, dont le modèle au niveau du dessin est John Cassaday, le dessinateur de la série. Il s'est pris lui-même comme modèle.
D'ailleurs,
il a une bonne gueule de surfeur. Oui.
Ouais, on pense qu'il a dû changer au niveau régime entre temps, parce qu'entre les premières histoires, le batteur a un petit embonpoint, on va dire. Et ensuite, il commence à maigrir. Alors, est-ce que le dessinateur a fait pareil ou est-ce qu'il a fait l'inverse ? On ne sait pas. Parce qu'au fur et à mesure, il s'idéalise.
Alors bon, il a un bon look des années 90, comme on disait. Donc, le look des années 90, vous savez de quoi on veut parler. Hein. Et...
C'est un demi-book, lui. Qui a...
Oui, ouais, mais attends, on est en 99, hein, au début de Planétary, il me semble. Donc, on est bien dedans. Il a comme pouvoir de pouvoir intercepter toutes les transmissions de récupérer toute l'information autour de lui, de l'analyser, de la lire très très rapidement. Il est énorme pour ça. Le mot, c'est information.
Information.
Ensuite, nous avons Jaquita Warner, qui est la force de frappe du groupe. Elle court super vite, elle est super balèze.
Et elle frappe super fort.
Et elle frappe super fort. Le mot, c'est bourrine.
Et elle a super pas d'humour aussi.
Oui. Et au début de Planetary, ils vont chercher une troisième personne, qui est Elijah Snow. Elijah Snow, qui vivait dans son bled paumé dans le désert, à rien faire. Et elle va le chercher en lui disant, Planetary veut vous embaucher pour être le troisième homme. Parce que le précédent troisième homme, bah, il est plus là. Sans trop nous en dire plus. Elijah Snow a un pouvoir sur le froid. Il peut maîtriser la température autour de lui et tout geler autour de lui. Voilà. Il a un gros pouvoir sur le froid, c'est un Iceman mais en plus classe. Elijah Snow a aussi une autre particulier, c'est un enfant du siècle. Alors, les enfants du siècle, c'est un concept qu'a développé Warren Ellis et qu'il a mis en place avec Jenny Sparks, la chef d'Authority au départ. Ouais. Ce sont des enfants qui sont nés le 1er janvier 1900. Et qui apparemment ont de grandes chances de mourir au 31 décembre 1999. Ils ne vieillissent pas. Ils sont tous restés coincés à un certain âge, plus ou moins jeunes. C'est le cas d'Elijah Snow.
Une trentaine d'années quand même, parce que même Snow en fait te dit qu'il a eu les cheveux blancs très tôt. Hein.
Oui, enfin bon, il fait quand même un peu plus vieux. Alors Elijah Snow, alors on l'apprend en lisant sur les jaquettes de l'édition Semic, c'est Hugo Pratt qui a servi de modèle au personnage d'Elijah Snow, habillé tout en blanc, tout classe, etc. Et donc, il le récupère, et lui, il ne sait pas trop ce qu'il va faire sur Planetary, et il explique que Planetary, c'est une agence qui a des succursales partout dans le monde, qui enquête sur les phénomènes paranormaux, et qui, et en gros, fait des fouilles pour comprendre l'origine de certains phénomènes paranormaux. Ça va, j'ai bien résumé ?
Tu as bien résumé.
Chaque épisode a la particularité d'être quasi indépendant, mais avec un putain de fil rouge au milieu.
Quasi. Tu as bien dit quasi. Hein.
Car chaque épisode va faire référence à un style de la littérature, enfin de la culture populaire, il n'y a pas que de la littérature, il y a aussi du cinéma, il y a aussi de la bande dessinée, donc de la culture populaire du XXe siècle. Ainsi, on va avoir un tome qui va s'intéresser à tout ce qui est film d'horreur hollywoodien avec les femmes géantes, les insectes géants, etc. On va en avoir un qui va s'intéresser aux films de Hong Kong. On va en avoir un qui va s'intéresser aux icônes de DC Comics. Il y en a un qui va s'intéresser à Vertigo, toute la ligne Vertigo de DC Comics, donc la ligne adulte, et principalement anglaise. D'autres vont s'intéresser aux monstres de la Hammer, Frankenstein, Dracula, etc. Ou bien alors au roman Pulp, avec l'aventurier de l'Afrique et compagnie. Et à chaque fois, il va utiliser une histoire pour nous parler d'un de ces genres populaires de notre passé, et en même temps le mettre en perspective dans son univers dont il est en train de créer l'histoire, en fin de compte. C'est-à-dire que ces personnages déterrent l'histoire du passé, tout en créant le passé de l'univers Wildstorm. C'est classe. Reste une question, c'est qui est le quatrième homme ? Car apparemment, ils ont été embauchés par le quatrième homme. Le mystère se met en place et va servir de fil conducteur au début de l'intrigue. Et donc, on va essayer d'apprendre qui est le quatrième homme. On va l'apprendre assez rapidement, dans le tome 2, on l'apprend. Il y a un autre mystère, c'est qui était l'ancien troisième homme et pourquoi est-ce qu'il a disparu. On l'apprendra dans le tome 2 aussi. Et on saura ce qui lui est arrivé dans le tome 5, le dernier.
En fait, non, tu sais un peu ce qui lui arrive dans le tome 2, mais la solution...
On en apprend un peu plus. Donc oui, il y a des épisodes qui sont un peu des flashbacks, qui nous racontent des trucs du passé pour nous remettre dans le contexte, nous expliquer. Et on a aussi toute une galerie de personnages secondaires très intéressantes. C'est-à-dire qu'il nous explique qu'il y avait toute une équipe de héros dans les années 30, qui sont en gros des concepts collés sur Doc Savage, The Shadow, etc. Enfin, tous ces personnages des romans pulp. Donc on a tous ces personnages et on voit comment ils ont évolué avec le temps. On a aussi le groupe antagoniste de Planetary qui s'appelle Les Quatre. Alors Les Quatre, c'est basé sur une équipe que tout le monde connaît. Rien que le nom devrait aider. En gros, ce sont des gens qui, pendant un programme parallèle au programme spatial, parce que le vrai programme spatial était là que pour mettre de la poudre aux yeux au public, le vrai programme spatial, c'était le leur, ils sont partis et puis ils ont eu un truc qui leur a donné des pouvoirs, en gros, parce qu'ils se sont rapprochés un petit peu trop d'un flocon d'informations. Enfin, c'est un des points récurrents de l'histoire. Et ils sont revenus avec des pouvoirs et depuis, c'est un peu eux qui ont géré l'évolution du monde d'un point de vue scientifique, d'un point de vue technique. C'est-à-dire que sans eux, on aurait des technologies beaucoup plus avancées, entre autres.
Mais ils ont un terrible secret.
à partir du moment où l'équipe commence à un peu se refaire, un des objectifs est de retrouver les quatre pour leur démonter la gueule.
Un cassage de bouche réglementaire.
Voilà, s'entendre avec eux. Bon. Voici pour l'intrigue. C'est très très prenant, très très bien écrit, et ça vaut le coup. On va revenir tout à l'heure sur le tome 5. D'abord, Thio, tu aurais quelque chose à rajouter sur mon petit résumé de l'intrigue globale de...
Est-ce que t'es beau quand tu parles?
Je ne me tairai plus jamais.
Merde. Non, c'est un très très, c'est un excellent résumé. Écoute, je n'ai rien rajouté là-dessus. Hein. Donc, je ferai que pire.
Nous avons un hors-série qui est aussi sorti chez Semic. Je ne sais pas s'il est disponible. J'ai une bêtise. Il est encore disponible. Qui s'appelle D'un monde à l'autre, qui lui est un hors-série qui va mettre des crossovers. Alors les crossovers, il y en a trois. Il y a Planetary Authority, dessiné par Phil Gimnez. Phil Gimnez qui avait dessiné The Invisibles, si je me souviens bien, pour Grant Morrison il y a longtemps. C'était la classe. Nous avons Planetary JLA par Jerry Ordway. Jerry Ordway qui a beaucoup bossé sur la JLA, si je ne m'abuse. Il faudrait demander à des vrais spécialistes du comics. Mais c'est dans les années 80, d'ailleurs, ça se voit au niveau du style. Et Planetary Batman, qui est le bijou de la série, dessiné par John Cassaday. En gros, ce qui est intéressant dans le Planetary Authority, qui s'appelle Ruling the World, c'est qu'on a vraiment les deux équipes créées par Warren Ellis pour l'univers Wildstorm qui se confrontent, les deux enfants du siècle qui se confrontent, avec chacun leurs objectifs. Il y en a, en gros, c'est faire la loi sur le monde pour éviter que l'humanité fasse des conneries. Ça, c'est Authority. Parce que de toute façon, l'humanité fera des conneries. Et l'autre, c'est comprendre le passé pour éviter de répéter les mêmes conneries. Donc, en gros, il y en a qui cassent des bouches et il y en a qui réfléchissent. J'ai bien résumé les deux équipes.
Oui. Voilà. Oui, enfin, moi, il y en a quand même qui réfléchissent aussi dans chacun des groupes. Hein.
Et donc, ils reviennent sur un des sujets très importants de ce qu'avait amené Warren Ellis à l'univers Wildstorm, c'était la plaie. La plaie, c'est en gros ce qu'il y a entre les dimensions, parce qu'il existe des mondes parallèles, etc. Et la plaie, c'est ce qu'on trouve entre les dimensions. Et c'est là que se trouve le vaisseau de The Authority, d'ailleurs, qui peut naviguer dans la plaie. Et c'est ce qui permet la téléportation. On passe par la plaie pour faire de la téléportation, etc. Et c'est un peu à l'origine de beaucoup de phénomènes dans Planetary. Et dans Authority. Et donc, on a un petit peu une rencontre entre tous les personnages. Le Planetary JLA m'a un petit peu moins marqué, parce qu'en fait, c'est plus une rencontre avec une JLA d'un monde parallèle. C'est-à-dire que Planetary rencontre une JLA d'un monde parallèle. C'était un petit peu moins marquant. Enfin, le bijou...
Il y a quand même Wonder Woman.
Il y a Wonder Woman. Le Planetary Batman, dessiné par John Cassaday, qui en plus a décidé un style graphique sur celui-là qui est superbe, et qui en fait fait que The Planetary rencontre un endroit où les réalités s'alternent, où il y a quelqu'un, un personnage qui en gros fait que les réalités se rencontrent, et ce qui se passe, c'est que The Planetary va rencontrer en gros toutes les versions de Batman. Du Batman de la série télé des années 60 avec son petit bide, jusqu'au Batman de Frank Miller,
ouais.
En rencontrant toutes les autres versions plus ou moins classiques et à chaque fois graphiquement très très bien représentées et très bien dans le ton. Et on voit surtout l'évolution du personnage à travers le temps, parce que bon, il nous retrace quand même près de 60 ans d'histoire d'un personnage dedans. C'est un vrai hommage à Batman, très bien foutu, un hommage à la culture populaire comme il a été dans Planetary. Ça peut être une bonne approche pour découvrir la série. Notre avis global sur la série, Thio, sans spoiler, on est encore dans le sans spoiler.
Un avis global sur Planetary, une série excellente, mais je pense que toute sa saveur, elle prend quand tu connais Authority, quand tu as suivi Stormwatch, voilà, quand tu la prends vraiment dans sa globalité.
Ouais.
Moi, je trouve. Après, je pense que quelqu'un qui va lire Planetary du début à la fin va peut-être, je pense, quand même se régaler parce que l'histoire est très très bien écrite.
Je suis pas sûr qu'on ait besoin de
Authority. Je dis pas besoin, mais je dis ça forme un tout.
Ouais.
Et quelque part, quand tu connais tout l'univers, je pense que ça a encore plus de saveur.
Enfin, tout l'univers Wildstorm tel que vu par Warren Ellis, en tout cas.
Vu par Warren Ellis, on est d'accord. Mais je pense que ça prend encore plus de saveur. Maintenant, c'est clair que si tu prends que Planetary, là, tu prends les 6 tomes, tu te régales aussi. Hein. Mm-hmm. Surtout parce que plus, moi, voilà, c'est comme toi, là, comme tu as tout relu depuis le début, ce que je n'ai pas eu le temps de faire. C'est certain que quand tu me montres tous les petits détails qu'il y a au niveau scénaristique, là tu fais waouh, le gars il a vraiment, enfin,
il a bien réfléchi,
tout pensé quoi. Tout,
parce que Planetary c'est quand même 27 sans compter les crossovers, c'est 27 épisodes dans la version originale. Donc 27 épisodes qui sont très 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 bien construits. C'est-à-dire que on se rend compte en avançant dans l'histoire qu'il y a des références à des événements qui se passent dans les premières histoires. Il y a des choses qui se passent dans les premiers épisodes qui ne trouvent leur dénouement que dans le dernier. C'est très très bien écrit. En plus, il s'est permis de s'amuser avec les couvertures. Les couvertures sont toutes des hommages justement au genre. On n'a pas une couverture classique à l'américaine qui va nous reprendre les héros dans une pose iconique, sauf bien sûr quand il y en a besoin. Bref, c'est très 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 joliment foutu. En plus, les traductions sont bonnes. Dans les derniers, c'est Jérémy Manès qui a traduit pour Panini. Chez Semix, c'était Alex Nikolavitch, qui font partie des traducteurs que j'apprécie en général dans le comics. Bref, Planetary, c'est bon. Mangez-en. C'est maintenant, fini. Nous allons pouvoir parler du dernier tome, du final. Et c'est maintenant que, chers auditeurs, vous pouvez cesser de nous écouter. Et revenir un peu plus tard pour notre online. Alors, ce dernier tome, en gros, attention, les révélations. Le quatrième homme, on le sait, était en fait Elijah Snow. ouais, on fait les révélations de ce tome.
Et là, d'un coup, vrillage de cerveau, mais comment ça? C'était le quatrième homme, mais c'est voilà. Est-ce possible?
Les quatre ont pris le contrôle de toute l'évolution de l'univers pendant un certain temps, et Elijah Snow a décidé de les retrouver parce que bah, ils ont un peu foutu la merde, quoi, et qu'ils ont ôté à l'humanité
son libre arbitre.
Son libre arbitre. Et donc, l'autre objectif va être d'essayer de retrouver. Ils se rendent compte que Ambrose n'est peut-être pas mort.
Tintin.
Et on arrive sur toute une histoire avec une théorie que j'ai trouvée géniale. Dans les tomes précédents, il nous avait bien expliqué toutes les histoires autour de la plaie. Qu'est-ce que c'était, comment ça fonctionnait, le flocon qui représentait la réalité. Et là, maintenant, il nous parle des voyages dans le temps. Et au niveau des voyages dans le temps, il nous explique une théorie, moi, que j'ai beaucoup aimée parce que je ne l'avais jamais entendue. Est-ce que tu avais déjà entendu cette théorie?
Non.
Non. C'est qu'on ne peut pas remonter le temps avant la date de création de la machine. Parce que comme elle n'existait pas avant, on ne peut pas aller avant, d'un point de vue paradigme de la réalité, ça tient la route. Ça peut faire vriller le cerveau, mais ça tient la route. Donc, si on a une machine à voyager dans le temps, qu'est-ce qu'on aimerait faire à la base? Retourner au temps des dinosaures, retourner au plus ancien, voir ce qu'il y avait au début. Là, bah on peut pas, vu qu'on peut pas remonter avant la création de la machine. Donc on va aller au moment de la création de la machine. Et si on fait ça, ça veut dire que tout le monde va le faire. Et donc ça va foutre un sacré bordel et ça va un peu créer le chaos. Et là, on se pose la question, faut-il le faire ou pas pour comprendre ce qui a pu se passer? Et n'est-ce pas un peu ce qu'a fait Warren Ellis en remontant le temps jusqu'au début de ces histoires, de cette culture populaire qu'on adore et dont on parle encore dans cette émission? Il y a une forme de mise en abîme de son propos, de ce qu'il a fait, qui est fantastique. Bon, j'ai beaucoup parlé, je t'ai pas laissé beaucoup la parole là-dessus.
Je te dis... Non, celle-là, tu l'as fait trop bien. Moi, je l'ai fait qu'écouter.
Voilà.
Je suis un auditeur aujourd'hui.
On va vite dire que Cassaday aussi dessine super bien. Il a un style réaliste, des mises en page très cinématographiques. Il joue beaucoup sur des longues planches. Il s'adapte au style qu'il utilise aussi, au genre qui est parodié dans Planetary. Et il n'est jamais aussi bon que quand il n'est pas ancré. C'est-à-dire que quand il y a sur ses crayonnés qui sont superbes, tout en finesse. Enfin, il fait des crayonnés un peu plus chiadés quand il n'est pas ancré, j'imagine. Enfin, j'espère. Qui sont directement mis en couleur, il utilise cette technique pour des flashbacks la plupart du temps et c'est superbe.
What else?
Nous allons pouvoir passer à notre rubrique online. Et donc c'est encore moi qui vais parler, parce que comme d'habitude, tu ne lis pas de BD sur internet.
Non.
Voilà.
Bah, en même temps, tu m'envoies les liens le jour où je suis ici, alors du coup, c'est un petit peu
vrai. Mais tu pourrais t'y intéresser aussi, avoir un peu de curiosité. Et nous allons parler aujourd'hui du Turbo Medium.
Saloperie que tu... un peu de curiosité. Tu ne trouves pas qu'elles sont assez chargées, mes semaines, toi?
Nous allons parler du Turbo Media. Alors, le Turbo Media, qu'est-ce que c'est? Le Turbo Media, c'est une forme de bande dessinée numérique, on va dire encore un peu expérimentale, qui est en train de se chercher et qui trouve petit à petit sa forme. La question, c'est comment faire de la bande dessinée sur Internet qui ne soit pas comme de la bande dessinée sur papier. On a des possibilités énormes dans la bande dessinée. Et les premières expériences qui avaient été faites, c'était de s'amuser à mettre du son, des animations, etc. Sauf qu'en faisant ça, bah, c'était plus de la bande dessinée, c'était un peu de la vidéo. C'était un peu dommage. Donc, il y a eu des expérimentations qui ont été faites, principalement par Balak et Malek. On mettra les liens vers leur blog. pour voir comment est-ce que ça pourrait marcher. C'est-à-dire que il faut que ça reste de la bande dessinée, donc que le rythme de lecture soit le rythme de lecture du spectateur, donc pas de son, parce que le son impose une certaine temporalité, que on peut mettre des animations, mais il faut qu'elles soient très très courtes et qu'elles servent le propos pour expliquer la situation. Et donc on se retrouve avec des planches.
Ça fait limite dogme, c'est vrai que je veux dire. Ouais. Il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça comme ça. Et attention, sur la case, il faut pas qu'il y ait d'orange, parce que l'orange, c'est le mal.
Sur Jérôme Boucabloche, ils ont mis du orange.
Tu vois, je te dis, hey, rappelle-toi le fanatisme, je t'en ai parlé la dernière fois.
Et donc, au niveau de l'expérimentation, ils sont en train d'avancer et ils ont fait des petites BD pour mettre ça en avant. Développer aussi des frameworks, mais là on rentre dans la technique, qui permettent d'utiliser ces technologies-là de façon simple, parce que ce soit à la portée de tout le monde. Et bah, ça amène des BD assez rigolotes. Alors souvent, vu qu'on est encore dans l'expérimentation, ce sont des trucs comiques, un peu de l'expérimentation, où ils expliquent leurs propos, où ils expliquent ce qu'ils veulent faire. Surtout Malek, qui est très très didactique dans ses propos, et c'est bourré d'humour. Malek, par exemple, dans une de ses BD, avait inclus la possibilité de faire du choix multiple. À un moment, on peut choisir vers quel côté on va à la BD.
Si et donc, c'est le livre dont vous êtes le héros.
Et donc, il demande à un moment de voter pour savoir si lui a raison ou si c'est sa copine. Et si on vote pour sa copine, il fait « Ah ouais, vous êtes des pervers, je suis sûr que vous êtes revenu en arrière pour pas me soutenir, que vous avez choisi ma copine pour voir ce que ça faisait après avoir choisi moi. » Donc, plein de trucs très très drôles. Mais surtout, je trouve une expérimentation au niveau de la forme de la bande dessinée qui est intéressante. Parce que je pense que pour ce qui est de la bande dessinée sur Internet, on a encore beaucoup de possibilités qui n'ont pas été exploitées. Scott McCloud en avait pas mal parlé et a fait beaucoup d'expériences aussi dans ce domaine-là. Et que beaucoup de choses très très sympathiques sont à venir. Voilà pour le online. T'as vu un peu, c'était court, c'était efficace. Et on va s'arrêter là.
Ben, on va peut-être d'abord décider c'est quoi le meilleur du mieux.
Ah ouais, le meilleur du mieux.
Alors donc son choix donc était très très compliqué. One IP a réfléchi pendant des heures, des jours, des années et il a décidé que c'était Planétari.
Waouh, comment t'es deviné ?
T'as vu ? Bon maintenant c'est à toi de trouver le mien alors.
Le tien Planétari. Non, tu vas choisir autre chose rien que pour me contredire.
Bah en fait non parce que non.
Ah ouais.
Non parce que la fin de Planétari, le tome 5 m'a scié. Voilà, je suis resté à peu près scotché parce que du coup t'as plein de révélations et tu fais waouh.
D'accord.
Et donc, finir une série quand même aussi longue en faisant waouh.
Enfin longue, 27 numéros pour du comics.
Si, non, là j'étais là quand même, je suis resté à peu près assis sur mes fesses et
Ah donc finalement c'est Planétari quand même.
Oui, non, c'est Planétari quand même.
Bon voilà, achetez Planétari, il y a pas beaucoup de tomes, c'est vraiment
ce serait peut-être intéressant s'il nous faisait une petite intégrale quand même.
Oui, ça pourrait valoir le coup. Enfin, ça va pas être pour de suite, ils vont peut-être essayer de vendre leur tome 5 qu'ils viennent de publier. C'est environ 11 euros le tome, tiens, juste pour info, on l'avait pas dit. Voilà, bah merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas le concours pour gagner les exclimeries du numéro.
Mais franchement, il y en a qui tapent quand même.
La semaine prochaine, on se retrouve pour un hors-série avec Merton qui travaille sur le site bdo.fr. Et donc un jour, on continue avec une superbe émission avec encore plein de BD fort sympathiques. Et on va surtout se faire un rattrapage sur du pilule bleu parce qu'on l'avait pas fait. Et puis on va aussi parler de Dave McKean, de Daredevil, de belles choses quoi.
Un bon programme.
À dans 15 jours.
À dans 15 jours, ciao ciao.